Radio Galère 88.4, et comme chaque semaine, on se retrouve pour une heure en Palestine. Et aujourd'hui, c'est le collectif Marseille-Gaza-Palestine qui anime l'émission et qui a le plaisir d'accueillir dans les studios le duo Loz comme Amande,
oui.
Avec Bassila et Martine. On les retrouve un tout petit peu plus tard. Alors, les annonces d'abord. Qu'est-ce qui se passe cette fin de semaine à Marseille? Eh bien, outre demain, l'événement qui va mobiliser toute la ville pour une manifestation de revendication, avec la participation, bien évidemment, des différents groupes de soutien à la Palestine. Eh bien, vendredi à 19 septembre, à 19h, au cinéma Le Gyptis à la Belle de Mai, en présence du réalisateur Iyad Alastal, projection débat du film documentaire Pour l'honneur de Gaza. Des images tournées par le réalisateur lui-même avant qu'il puisse quitter Gaza et par des caméramans restés sur place. Un tableau de l'humanité au sein de la population palestinienne de Gaza. Le samedi 20 septembre, le film est projeté au cinéma Le Méliès à Port-de-Bouc avec un repas à 19h et le film à 20h30. Toujours avec la présence du réalisateur. Le dimanche 21, manif hebdomadaire, ce dimanche à 14h à la Porte d'Aix, mais aussi le matin, une action du mouvement de la paix pour la Journée internationale de la paix. Et puis, pour rester informé, pour avoir plus d'informations, et en particulier pour suivre la flottille, les flottilles qui sont sur la mer et qui vont bientôt rejoindre Gaza, eh bien, suivez-nous sur le Facebook, sur le collectif Marseille-Gaza-Palestine. On fait tout de suite une toute petite pause musicale avec cette chanson qu'on aime beaucoup, qui est « Wake up, little boy » par Liour.
Wake up, it's a long night, darling. Wake up, it's the brightest sky. No love, it's a dark night, darling. Hold on to me for dear life. Wake up, where do we go to? Wake up, fire in your eye. Oh love, we will try to come and save you. It's all just a matter of time. Wake up, won't you listen to the people? Wake up from the mountain of the lies. No love you've been upon through every sequel. Wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, call your brother, call your mother. Wake up, under aid from the sky. Oh love, we're digging deeper in the rubble. Hold on to my voice outside. Wake up, we just lost another family. Wake up, cause we need the world to see. No love, they won't ever understand us. Too bad, we're just bodies on a screen. Wake up, they don't care about the people. Wake up, they don't care about you too. Oh love, if you're walking with the people, hold on, cause they're coming for you. Wake up, little boy, they don't want you. Wake up, you might threaten their plan. Run, run, no, before they come and find you. Grow up till you're taught to fight back.
Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec cet article de Vincent Lumière qui a été publié hier. C'est pas vraiment un article, c'est une recension des différents événements. Et voilà ce qu'il nous dit. Gaza brûle, a annoncé fièrement le ministre de la Défense Israël Katz, qui confirme le début de l'offensive terrestre sur Gazaville, avec l'engagement de deux divisions, environ 30 000 hommes. Quelques données factuelles pour y voir clair dans le flot des informations du moment. Il y a 15 jours, Gaza abritait 1 million d'habitants. L'armée israélienne estime que 300 000 ont pu fuir. Il reste donc 700 000 civils piégés au cœur des combats, c'est-à-dire plus que la totalité des habitants de Toulouse. Israël commet un génocide à Gaza selon la commission d'enquête indépendante missionnée par l'ONU, qui rejoint les conclusions de Human Rights Watch, d'Amnesty International, de Médecins sans frontières, de B'Tselem et autres organisations internationales. Cette conclusion aura de fortes incidences sur les procédures engagées devant la Cour internationale de justice. Au moins 83% des morts à Gaza sont des civils, selon les données statistiques de l'armée israélienne. C'est le chiffre le plus important à retenir pour éclairer ces débats compliqués. À titre de comparaison, on a dénombré 23% de civils parmi les morts au Soudan, 10% en Ukraine, 8% en Afghanistan. Les seuls chiffres comparables avec Gaza dans les conflits récents sont Srebrenica et le Rwanda. Dans les deux cas, les juridictions internationales avaient conclu à un génocide. Dimanche dernier, l'armée a détruit un immeuble abritant une grande collection archéologique de Gaza, constituée depuis des décennies par les chercheurs de l'école biblique et archéologique française. Seule une partie des 180 mètres cubes d'objets a pu être sauvée. Israël est menacé d'isolement et doit se préparer à l'autarcie comme Sparte autrefois, a déclaré Netanyahou hier devant un forum économique. En réponse, l'éditorial de Haaretz se conclut ainsi. Israël s'enferme dans les murs d'un ghetto. De fait, l'isolement diplomatique d'Israël s'est encore accentué depuis l'échec des frappes sur le Qatar. Hier, un sommet a réuni à Doha les pays du Golfe, l'Égypte, la Jordanie, mais aussi l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Pakistan et l'Iran. Du jamais vu, les pires ennemis réunis dans leur opposition à Israël. Bonne nouvelle, par contre, le Tour d'Espagne n'a pas pu se terminer dimanche suite aux manifestations pro-palestiniennes contre la présence de l'équipe Israël Premier Tech. L'Eurovision, ce sont 6 pays, l'Islande, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Espagne et la Slovénie, donc 5 pays, pardon, qui ont annoncé le boycott des prochaines Eurovision Song Contest, c'est-à-dire la cérémonie de l'Eurovision, si Israël y participe. Du côté de la France, c'est le silence. Pour rappel, la Belgique, l'Espagne et d'autres pays européens ont annoncé des sanctions ciblées, notamment un strict embargo sur les armes, imports et exportations, plus l'interdiction d'escale des navires avec chargement militaire à destination d'Israël. Mercredi dernier, Ursula von der Leyen, pourtant très timorée jusqu'à présent, a demandé la suspension de l'accord commercial entre l'Union européenne et Israël, ainsi que la mise en pause de tous les transferts. Financiers entre l'Union européenne et Israël dans le cadre des soutiens bilatéraux. Et puis, dans le domaine sport, spectacle, armement, commerce, historiquement, je ne vois qu'un seul parallèle pour saisir l'ampleur du basculement en cours, l'isolement international de l'Afrique du Sud dans les années 1980 jusqu'à l'abolition de l'apartheid en 1991. Cette semaine s'annonce décisive. La France va reconnaître l'État de Palestine lundi 22 à l'ONU, avec le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Belgique, le Luxembourg et d'autres pays qui s'apprêtent à rejoindre l'initiative franco-saoudienne. Le Qatar et Marco Rubio confirment des négociations de la dernière chance pour un cessez-le-feu. Vous avez remarqué que chaque fois qu'il y a des négociations en cours et qu'elles pourraient aboutir, eh bien Israël déclenche le feu des bombardements de manière à faire tout échouer. Des sanctions fortes, crédibles et coordonnées doivent être annoncées immédiatement pour stopper l'offensive sur Gaza et forcer Netanyahou à accepter un accord de cessez-le-feu avec la libération des otages. Sinon, Emmanuel Macron reconnaîtra un cimetière, comme nous l'écrivons avec Elie Barnavi, dès le 5 août dernier. Voilà, c'est donc ce papier qui est paru dans Le Monde, me semble-t-il, hier, et c'est signé Vincent Lemire, et ça fait référence donc à cet article écrit avec Elie Barnavi au début août. On refait un petit break musical avec cette fois-ci la première chanson du duo Loz qui nous a été envoyée. Donc c'est parti.
دخلك وصل لي السلام بلغ أهلي ولادي مشتاق للرف الحمام سلم مي يا منادي بعد ممنوع الأحلام طلها أيام ببالي والله بتعز الأيام يا رايح صوب اللي طاني دخلك وصل لي السلام طبح أهالي النبطي وطل شوية على الخيام يا رايح صوب اللي طاني دخلك وصل سلمي ما تهنوا اشتاقت عينه لترابك كل عيونه نامت لكن صاحي قلبه ما بينام يا رايح يا رايح بلغ أهلي يا رايح يا رايح سلمي يا رايح يا رايح كل أيام ببالي يا رايح يا رايح يا رايح يا رايح يا رايح يا رايح يا يا يا
voilà cette chanson alors tout de suite avec le duo Loz Basile et Martine. Basile, à toi, et toi, on t'a déjà reçu dans les studios, mais on va quand même reprendre ton histoire et quitte à se répéter, mais les auditeurs ne sont pas toujours les mêmes. Et puis en plus, on va diffuser très, très largement sur les réseaux sociaux cet entretien de manière à ce que tout le monde vous découvre, beaucoup plus de gens vous découvrent et que vous puissiez vous produire ailleurs parce que la résistance, c'est aussi le chant, la musique et même sous les bombes à Gaza. Il y a encore des gens qui chantent et des enfants qui chantent pour tenir le coup parce que la musique, les chants, c'est aussi donner de l'espoir.
Oui, tu as raison. Moi, quand j'écoute des chansons des enfants ou des jeunes à Gaza, elles me donnent l'espoir. Oh, même, elles me donnent l'espoir. Ils souffrent toujours, mais vraiment, elles sont fortes avec ça. Elles résistent avec le chant.
Alors, tu nous présentes un petit peu ton histoire, ton itinéraire, l'histoire de la famille.
Ok, rapidement. Et je m'appelle Basila Abou Ahmed. Je suis née à Damas de mon père qui... Il est né en Palestine, à Haïfa.
À Izem, c'est ça?
Oui, à Izem. Tu es allé là-bas.
Oui.
Et lui, après, comme d'autres Palestiniens, il est expulsé en Syrie. Il a installé en Syrie, à Damas. Il est marié avec ma mère. On est né tous là-bas comme réfugiés palestiniens. Parce qu'en Syrie, on n'a pas le droit d'avoir la nationalité syrienne. Pour ça, on reste réfugiés. Et que ma mère elle est réfugiée et que mes enfants sont aussi nés avec ce statut. Et après la révolution syrienne, on est...
Vous viviez dans le camp de Yarmouk.
Oui, dans le camp de Yarmouk. Maintenant, il est détruit complètement. Mais les gens aussi, ils ont commencé il y a quelques mois, après la chute du régime Assad, ils ont commencé de le construire. Il y a des magasins maintenant. Ils ont toujours l'espoir, les Palestiniens, de refaire, de recommencer. Et c'était obligé aussi de repartir de Syrie. Mon père, il ne voulait pas pour pas répéter le Nakba. Mais en 2012, il a noté ça dans son agenda que c'est la deuxième Nakba. Parce qu'ils ont commencé, le Bachar Assad, de bombarder le camp de Yarmouk. Et lui, il est parti. Il nous rejoint en Égypte. Après, on est venu là en 2013. On s'est réunis toute la famille là. Mais mon père, il est décédé en 2018.
Alors, pour revenir, effectivement, nous nous sommes allés avec Muriel Jacoub tourner un film qui s'appelle
«
La clé de sol ». Et on est allés dans le village de tes parents, à Izim. Et tu nous avais donné beaucoup de renseignements, en particulier sur cette école où allait ton père et qui est devenue une synagogue. Et puis derrière, où ton oncle, qui a été tué lors de la résistance en 1936, où ton oncle avait été enterré, on a cherché, on n'a pas trouvé la tombe, mais on a trouvé les éléments que tu nous avais donnés et ils figurent dans ce film de Muriel Jacob. Oui, et ta maman qui est partie de Palestine dans le ventre de sa mère et
oui,
qui est née
ça.
Au Liban, sa maman, ta grand-mère était enceinte lorsqu'il y a eu la Nakba et lorsqu'ils ont été évacués vers Haïfa et de Haïfa,
on les a poussés dans des bateaux
et qui ont été amenés par les Britanniques. Alors au début, je ne comprenais pas très bien et puis après, effectivement, chez les historiens israéliens en particulier, chez Ilan Pappé, on a pu trouver effectivement les traces de cette collusion britannique avec les troupes juives à l'époque pour évacuer les Palestiniens et les amener au Liban d'abord, puis ensuite l'itinéraire jusqu'à la Syrie. Juste encore une question. Tu as pu avoir la nationalité française et tu as pu retourner à la fois en Palestine et en Syrie après la chute de Assad. Tu peux nous raconter rapidement
Oui, pour la Palestine... Moi, j'étais mon rêve quand j'ai la nationalité française que retourner en Palestine. Mais aussi, j'avais pas beaucoup de courage au début parce que c'est pas facile face à face. Je peux regarder avec un militant israélien. Ça, on le voit sur les télés, on l'entend, mais on n'a pas l'habitude nous, les Palestiniens, d'or de la Palestine. Pour ça, j'avais pas beaucoup. Après, je suis allée avec ma cousine et là-bas, j'ai cherché aussi une dame âgée pour trouver où était mon père à Elzem. On a trouvé une femme, elle avait 84. Elle avait une bonne mémoire. Quand je l'ai rencontrée, elle est venue avec nous. On a cherché, on a trouvé où il habitait mon père avec sa famille. Et là, c'était un rêve. C'était très fort pour moi. J'étais très contente, mais c'est mélangé aussi des sentiments. C'est mélangé, j'arrivais pas. C'était mélangé entre la Syrie, les mémoires et en Palestine, c'est ça. Parce que je suis née en Syrie. Toute ma vie, c'était en Syrie. Pour ça, c'était mélangé un peu. C'est étrange, ça. J'arrive pas à l'expliquer, des fois, exprimer. Mais je suis en train de faire un film pour ça, pour dire au moins, je sais qui je suis. Que suis-je? Comment suis-je? Que suis-je? Aussi, après le chute de Bachar, j'ai pu de rentrer, faire la visite en Syrie. Et aussi, je me suis sentie que ce n'est pas mon pays où je suis née. C'était aussi bouleversé, j'étais bouleversée à ce moment.
Et je me souviens de ce mot que ton fils a inventé, où il nous expliquait qu'il est, quand il était en Syrie, il disait toujours qu'il était palestinien, mais que depuis qu'il y a eu les massacres en Syrie, maintenant, il dit qu'il est palais-syrien,
oui.
En faisant un mélange entre palestinien et syrien. Et c'est effectivement ce sentiment de Nakba, la première Nakba, la deuxième Nakba, la première catastrophe et la deuxième catastrophe qui fait peut-être ce sentiment particulier pour les Palestiniens qui étaient en Syrie et qui ont dû fuir. Voilà. Alors... ton engagement pour la Palestine, c'est pas la peine d'en parler, on le connaît. Mais je crois que je voudrais quand même évoquer rapidement ce petit film, cette petite vidéo que tu avais fait à l'époque qui s'appelle Oum Falafel.
Pourquoi tu as révélé ça? Oui, je l'aime beaucoup le voir encore. Et c'est là parce que moi, au début, je ne parlais pas le français. J'ai commencé à faire un petit plat chez mon frère dans un bar. Et là, j'ai commencé à faire le falafel. Les gens, ils ont adoré. Mais chaque fois, ils me disaient, il y a un magasin ou un restaurant à Paris, il est israélien. Et là, ça me plaît, parce qu'ils ont dit que c'est dans leur culture, le falafel, leur cuisine. Et c'est pas vrai. Et là, j'ai fait... Mon ami, il m'a proposé de faire un cadeau pour moi, faire une vidéo pour dire que l'origine du falafel, c'est palestinien.
Alors, cherchez bien sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous allez trouver Oum Falafel. Et vous allez voir, c'est une très jolie petite vidéo, franchement. Alors, Martine, à toi maintenant, d'abord te présenter, et puis cette rencontre avec Bacila et votre travail en commun.
Ok, donc merci. Moi, c'est Martine. J'ai rencontré Bacella parce qu'en fait, donc, je joue de l'accordéon, je suis musicienne et je fais aussi. Je travaille avec une association culturelle à Miramas qui s'appelle Nuit Métis et sur un programme d'action culturelle. On utilise la culture comme outil pour créer du lien social, pour faire. Pour être vraiment dans une forme de résistance aussi envers toute idéologie pardon. Et donc j'ai rencontré Bacella dans ce cadre-là et pour moi c'est aussi important de m'engager pour la Palestine et c'est vrai que la culture c'est quelque chose qu'on peut difficilement écraser sous les bombes et c'est aussi un clin d'œil à une réalisatrice, une amie qui réalise beaucoup de documentaires sur le thème de musique et résistance et qui a fait un film, c'était en Tchétchénie, sur des enfants danseurs et le titre du film c'est « La culture ne meurt pas sous les bombes ». Et je trouve que c'est une phrase que j'ai souvent en tête. Effectivement, ensuite, de soutenir les artistes qui sont ici en France pour accompagner leur projet musical, c'est aussi important. Je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Miramas Solidarité Palestine. Et donc, je leur fais un petit coucou et j'en profite pour une pub, puisqu'il y a une initiative dans un cinéma à Miramas qui s'appelle Le Comédia, le samedi 27 septembre. Où il y a la projection du film qui est Put your soul on your hand and walk, donc de Sepideh Farsi, avec une exposition de photos aussi, de tirage. Donc il y a toute une dynamique qui a été faite. On collecte des sous aussi. Souvent on envoie à l'UJFP ou à des associations voilà, qui œuvrent sur le terrain.
Oui, alors j'en profite parce que ce film, justement, est projeté à Miramas le 27 ou le 28 ?
27 septembre.
Le 27, et il sera aussi projeté à Salon le 4 octobre.
Ok, voilà. Ça marche.
Et bien, on revient peut-être, alors c'est à ce moment-là qu'on fait une seconde pause musicale, mais alors ça va être une chanson en direct, c'est ça ?
D'accord.
Ok, alors on se prépare,
allez-y, on prend le
tambourin. Moi, j'ai une bonne question. J'ai acheté ça cette année de la Syrie, de Damas.
Et un accordéon. Okay, et voilà.
On va chanter la chanson Sabbel Ayouno.
Alors, Bacella m'a demandé d'expliquer. Je vais donc donner quelques explications. Donc, c'est une chanson qui date des années 80 et qui est en fait un hommage aux martyrs, aux personnes qui meurent donc, sous les combats. Et en fait, ça fait référence. Donc, les corps, ils sont portés, à même les épaules, et transportés comme ça. Et ça fait référence aussi au rituel des mariages où les maris, enfin les hommes sont aussi portés sur les épaules et c'est le départ. Et pour les martyrs, c'est aussi le signe du départ. Et aussi les femmes sont très fières aussi d'une certaine manière.
Surtout lorsque le jeune garçon n'est pas marié. Ça ressemble à une cérémonie de mariage avec tout le chagrin, mais la capacité à surmonter le chagrin à ce moment-là pour montrer que l'on continue à résister malgré le deuil et malgré le chagrin. À vous, le duo Loz.
سبل عيونه مد ايده يحنوا له خسروا رجايج وبالمنديل يلفونه سبل عيونه مد ايده يحنوا له خسروا رجايج وبالمنديل يلفونه سبل عيونه مد ايده على راسي خسروا رجايج وودعني ومش ناسي سبل عيونه ناداني من بدري خسروا رجايج وفي النار من صبري سبل عيونه منديلو يحنولو خسروا رجايج وبالمنديل يلفونو سبل عيونه مديدو على راسي أسراري جاي جودعني ومش ناسي سب العيون وناداني من بدري خسروري جايك في النار من الصبري
Eh bien, c'était le duo Loz. Je suis enfin arrivée à le prononcer correctement. Duo Loz, c'est-à-dire amande, avec Bacilla et Martine. Alors, on revient sur les questions, toujours sur Radio Galère à 88.4 et en route sur la Palestine pour une heure en Palestine. Vous vous êtes rencontrés, vous travaillez ensemble. Vous êtes rencontrés comment, au fait, avec Amir Hamas?
Amiramas, c'est oui, ça, avec Numétis, l'association qui fait un festival de musique et qui toutes sortes de projets très intéressants.
Elle m'a invitée là-bas pour chanter. J'ai montré deux petits films. Je l'ai fait sur le bohème de Gaza l'année dernière. Et je l'ai montré, on a chanté avec une autre fille.
Alors, Bacilla, quel est quels sont tes projets à toi et puis pour toutes les deux, quels sont vos projets en commun ou alors, Martine, tes projets individuels aussi, parce que le duo Loz, peut-être que vous avez des projets séparés.
Et moi, j'aime beaucoup toujours chanter et je suis prête de chanter toujours. Et surtout, les deux ans passés pour Gaza, on a beaucoup fait d'événements. Il y a beaucoup de gens qui ont fait d'événements. J'ai chanté beaucoup. Des fois, Martin, il est pas libre. Je chante avec d'autres musiciens. Et aussi, je suis en train de faire un film. Et je montre toujours mes films, mon film d'un exil à l'autre, qu'il est sur mon père, qu'il a vécu deux exils. Et un film aussi, il s'appelle L'odeur perdue. On a même gagné un prix il y a un mois dans un festival. Il a 8 minutes, mais je racontais l'odeur au camp d'Yarmouk, qu'il était très animé, très vivant le camp. Où l'odeur, elle va te faire suivre le chemin.
L'odeur du café, l'odeur de...
De café, de falafel, même le pain. Même les graines, quand on le fait griller, tout ça, il est ouvert et l'odeur, c'est pas comme si tout froid. Et pour ça, j'ai fait ce film. Et on a réussi avec ce film, il est petit. Et comme à la fin, le film, il est triste que le camp d'Yarmouk, il est détruit complètement. Et j'espère que toujours je peux chanter, améliorer le groupe, blues, chanter. Même dans les pays arabes, c'est mon rêve aussi. C'est Bakou en France.
Eh ben, j'espère que l'émission arrivera jusque dans les pays arabes et qu'ils auront envie d'entendre votre travail parce que, en tout cas, partout où vous produisez, le travail est apprécié. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne s'étale pas à l'international. Martine, toi-même...
Écoute, le projet avec Bacilla est très, très intéressant, donc l'espoir c'est de le développer. On a un concert le 7 novembre à la médiathèque de Martigues. Il y a des concerts ce week-end, mais c'est loin, c'est dans les Alpes ou dans l'Aude. Mais, donc là aussi, on peut inviter les militants ou les curieux à venir. C'est le 7 novembre l'après-midi.
Oui, le 20 septembre, je serai avec Pierre Stempel. Le 20 septembre.
Le 20 septembre.
Oui, dans deux jours.
Dans deux jours là.
Avec Pierre Stempel.
On est invité à jouer dans un micro-lieu qui s'appelle dans un lieu qui s'appelle micro-lieu. C'est à Chorges, dans le 05.
Ah oui, d'accord.
Oui,
ah,
c'est oui. Il sera une journée pour la Palestine là-bas.
10 heures pour la Palestine, c'est ça. Et lundi, c'est un festival de musique sacrée, de musique et danse sacrée qui est dans l'Aude.
Oui.
Vous allez dans l'Aude?
Eh oui.
Pour ça, on va bien bouger, rouler.
Voilà, c'est ça.
Ah ben, ce sont de bonnes nouvelles. Et puis, on peut commencer à l'annoncer. Le 10 octobre,
oui.
On sera tous ensemble au local de Solidaire pour un concert. Ouais. Peut-être le petit film de 8 minutes dont tu parles sur l'odeur. Et puis, un repas. dont les bénéfices iront à des organisations pour Gaza. Voilà, on donnera plus de détails petit à petit, c'est encore loin le 10 octobre. Et vos projets en commun, alors ben, vous en avez un petit peu parlé, c'est toutes ces soirées. Et le film, alors, tu parlais d'un film.
Le film, ce que je vais le faire, j'ai commencé, j'ai fait des images en Syrie et j'ai fait en Palestine quand j'étais. Et je vais essayer de mélanger avec une petite image en Marseille que je suis arrivée là, mais je n'ai pas senti que si je rentre chez moi quand je suis retournée de Syrie. Pour ça, je me suis perdue après la visite de Syrie. Je sens plus que au mon pays, vraiment. C'est étrange ça.
C'est tout ce que les Palestiniens portent aussi. C'est...
Je pense que tous les gens qui partent avec la force de leur maison, le sentiment n'est pas installé, je pense. Il va être toujours volé. Que c'est...
Oui. Comme s'ils sont en lévitation et que nulle part il y a la terre sous leurs pieds parce qu'il manque la terre originelle et les racines là où elles sont plantées. Mais il y a des choses qui avancent aussi, malgré la douleur, malgré la peine. Et c'est aussi pour ça qu'à Gaza, ils ne veulent pas partir, parce que 80% de la, 75% au moins de la population de Gaza vient de tous les villages de la côte, vient de la zone entre Gaza, justement, et Hébron. Et tous ces gens savent ce que c'est l'exil, savent ce que c'est la Nakba, et ils savent que s'ils quittent, ils ne pourront pas revenir. Et c'est pour ça que nous aussi, Marseille-Gaza-Palestine, à travers l'association Rizoma, on essaye d'aider ces Palestiniens qui sont installés au Caire, qui soit se trouvaient au Caire pour des soins de santé, parce que par exemple à Gaza, il n'y avait pas de possibilité de traiter le cancer. Donc ils avaient été évacués avant le 7 octobre. D'autres qui ont pu être évacués pendant les trêves. Donc il y a des blessés, des amputés, il y a des enfants malades, beaucoup de cancers. Et on essaye d'aider ces populations-là qui n'ont aucune aide, sauf quelquefois des colis alimentaires. Qui sont pris en charge dans des conditions difficiles et qui n'ont pas de soutien comme elles pouvaient avoir avant de leur famille à Gaza, parce qu'il n'y a plus possible, il n'y a plus de possibilité aucune. Et donc on aide, là on vient d'aider à scolariser 11 enfants dans des écoles privées, parce qu'en Égypte ils n'ont pas le droit à l'école publique, qui d'ailleurs est de très mauvaise qualité malheureusement, mais ils ne peuvent pas s'y inscrire parce qu'ils n'ont pas de papier, ils ont un statut, ils sont acceptés, mais ils n'ont pas vraiment de statut de résident. Et donc, on aide à scolariser ces enfants et on aide modestement à payer les soins des chimiothérapies, mais aussi des dialyses à des personnes plus âgées qui sont là pour des soins et qui ne peuvent plus rentrer à Gaza. C'est des gens, il y avait des gens qui étaient là de manière provisoire, pour des problèmes cardiaques, par exemple, et qui ne peuvent plus retourner. Donc, aujourd'hui, c'est cette solidarité-là qu'on essaye d'exercer. Voilà, on refait une pause musicale.
Ok. Là, je vais chanter un mawal. On dit mawal quand on chante lentement, très, on allonge les mots.
Une poésie.
Oui, comme la poésie. Là, que je dis, je parlais. Il y a un Gazaoui, il est retourné. Il n'a pas trouvé sa maison, ni ses enfants, rien. Il a trouvé tout détruit par terre. Il a chanté ses paroles et moi, je l'ai pris. Je ne vais pas retourner, je ne vais pas être un réfugié. Je vais rester là. Et même il est très long de retourner à ma terre, je vais retourner. C'est ça, je veux. Après, ensuite, la chanson à la Dalaona, c'est une chanson très connue dans le vent, Syrie, la Palestine, pour chanter, faire le dabke. يا داري مهما طال البعد لاجي ودمع فرقتك عالخد لاجي ما متعيشنا باسم لاجئ لابد ما عود مهما طال الغياب يا أهلي يا أهلي يا أهلي ليلي 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 وعلى دلعون على دلعون ديتون بلادي أطيب ما يكون على دلعون وين اللي راحوا قلبي من البعد زادت جراحوا على دلعون على دلعون زيتون بلادي أطيب ما يكون على دلعون وين اللي راحوا قلبي من البعد زادت جراحوا زيتون بلادي واللوز الأخضر والميرامي ولا تنسى الزعتر وقراس العجة لما تتحمر مطيب طعمتها بزيت الزيتونة
على دلعونة
على دلعونة زيتون بلادي أطيب ما يكون على دلعونة ولا دلعونة قلبي من البعد زادت جراحه على دلعونا على دلعونا الغرب صعب اليرمك حنونا يا طير احملني لعندي الحبايب احملني لعندي اهلي واصحابي
على دلعونا على دلعونا زيتون بلادي اطيب ما يكون على دلعونا وين اللي راحوا قلبي من البعد زادت جراحه
Merci, c'était très beau. 88.4 Radio Galère. On est en route pour passer une heure en Palestine. Je voudrais juste dire un mot sur une chose assez ignoble qui se passe en France actuellement. Vous savez, dans le cadre du programme Pause ou d'autres activités, un certain nombre de Palestiniens, artistes, peintres, poètes, intellectuels, ont été évacués par la France. Ils ont, avant de pouvoir quitter Gaza, ils ont subi une enquête très approfondie par les services israéliens, qui n'ont pas laissé sortir qui que ce soit sans avoir validé, mais aussi par les services français, qui sont quand même connus pour leur sérieux. Et ils sont arrivés en France. Alors certains sont passés par la Jordanie, et là il y a eu aussi un screening de leur histoire par les services jordaniens. Ceux qui sont pu passer par l'Égypte, il y en a quelques-uns peut-être, ont aussi été screenés par les services égyptiens. Et depuis leur arrivée en France, une personne qui est fortement soupçonnée d'avoir des liens avec les services israéliens et qui se présente sous le pseudo de le Swords of Solomon, les épées de Salomon, les harcèle, mais d'une manière tellement virulente et honteuse, en dénonçant les uns et les autres comme des intégristes, des terroristes infiltrés en France pour porter le chaos. Donc ils s'attaquent par exemple à un de nos amis, quelqu'un que l'on connaît depuis une dizaine d'années, que l'on a reçu à Marseille, qui a rencontré des autorités, qui travaillait avec le Centre culturel français, l'Institut français de Gaza, un peintre qui est à Aix-en-Provence, un poète qui est à Marseille. Alors de quoi les accuse-t-on ? Eh bien pour le peintre de ne pas d'avoir pleuré ses frères tués qui étaient membres du Hamas, effectivement, semble-t-il, de les avoir pleurés. Pour l'autre, d'avoir publié un message le jour du 7 octobre, alors que personne ne connaissait effectivement ce qui se passait, en soutenant une opération militaire, comme des milliers de gens l'ont soutenu, parce que Nul ne sait exactement ce qui se passait le 7 octobre au moment où cela se passait. Et donc dire qu'on apporte un soutien à une opération qui est destinée à briser le blocus et les massacres qui avaient lieu à Gaza depuis 2006, eh bien, c'est des millions de gens qui l'ont fait dans le monde. Eh bien, aujourd'hui, cet individu, qui bénéficie très certainement du soutien des services israéliens et des unités créées spécifiquement, continue à poursuivre les Palestiniens évacués en France jusque sur notre territoire et avec la bénédiction des autorités françaises. Et avant de passer à une prochaine chanson, je voulais revenir sur un texte écrit par une Palestinienne qui écrit admirablement bien. Elle s'appelle Mousna Chehabi. Elle est palestinienne. Elle a été conseillère auprès de l'Organisation de libération de la Palestine dans le cadre des négociations avec Israël. À l'intersection du politique et du narratif, ses écrits interrogent la place de la Palestine dans le débat public français entre mémoire coloniale, crispation identitaire et rétrécissement démocratique. Elle collabore actuellement avec le Centre arabe des recherches et d'études politiques, le CAREP, à Paris. Et à la suite de la publication d'un texte de l'historien Jean-Pierre Filu qui faisait porter la responsabilité de la situation actuelle à la fois à El-Hajj Amir al-Husseini dans les années 40 et aujourd'hui au Hamas, elle écrit « Un peuple s'est réveillé un jour et son ciel avait disparu. Pendant la nuit, les frontières avaient glissé, les cartes avaient été redessinées dans des chancelleries lointaines et ses enfants laissés déjà exilés. On lui a pris sa terre, on lui a pris ses morts et l'on tente encore de lui confisquer son récit. La dépossession palestinienne ne se joue pas seulement dans les champs et les maisons, mais aussi dans les livres et les journaux. Depuis plus d'un siècle, elle conjugue la perte d'un territoire et l'effacement d'une mémoire. Les Palestiniens connaissent l'exil géographique, mais aussi l'exil de leur propre histoire. D'autres racontent à leur place ce qu'ils ont traversé, pourquoi ils l'ont perdu et comment ils porteraient la responsabilité de leur propre effacement. C'est dans cette logique que s'inscrit la chronique récente de Jean-Pierre Filieu dans Le Monde, en attribuant aux Palestiniens la responsabilité écrasante de leurs catastrophes successives. À Hajj Amin al-Husseini hier, au Hamas aujourd'hui, il recycle un procédé ancien, transformer la victime en coupable, effacer la main du colonisateur et présenter la tragédie palestinienne comme un choix. Ainsi, Husseini, le moufti de Jérusalem, deviendrait-il le grand responsable de la Nakba pour avoir rencontré Hitler quelques minutes à Berlin en 1941. Cet épisode, sans cesse exhumé dans les débats parisiens, fonctionne comme un écran. Au lieu de regarder du côté des véritables architectes du désastre, les puissances coloniales qui, dès 1917, avaient promis une terre habitée à ceux qu'elles avaient relégués au rang de paria en Europe, ont désigné un homme seul, dans une époque où toute la région vivait sous les baïonnettes britanniques. Il est commode de faire de Husseini un bouc émissaire, mais ce n'est pas lui qui a rédigé la déclaration Balfour, ni lui qui a écrasé la grande révolte palestinienne de 1936-1939, l'une des premières mobilisations anticoloniales du XXe siècle. Des dizaines de milliers de paysans, d'ouvriers, d'étudiants et de notables s'y étaient levés contre le mandat britannique et l'immigration sioniste encouragée par Londres. Ce sont les autorités coloniales qui pendirent les résistants, exilèrent les dirigeants et décapitèrent le mouvement national, brisant l'élan d'un peuple et préparant le terrain à la Nakba. Comme l'a montré Ilan Pappé, 1948 ne fut pas l'accident d'un choix malheureux, mais l'aboutissement d'un projet colonial pensé et exécuté en Europe. Accuser Husseini d'avoir précipité la perte de la Palestine, c'est comme accuser la résistance française d'avoir provoqué les massacres nazis. On peut discuter des formes de la lutte, mais la responsabilité des crimes incombe toujours à l'occupant. Aujourd'hui, c'est le Hamas qui endosse ce rôle commode. Gaza serait détruite à cause de lui, et non de l'armée qui étrangle le peuple depuis des décennies. La rhétorique est identique. L'ennemi n'est pas celui qui bombarde, affame et assiège, mais celui qui incarne une résistance que l'Occident refuse de voir. Le Hamas mérite la critique comme tout mouvement politique. Mais la leçon essentielle de ces 20 dernières années est ailleurs. En janvier 2006, les Palestiniens ont organisé des élections libres et transparentes. Le Hamas en est sorti vainqueur. Ce moment aurait pu ouvrir un chapitre inédit, l'affirmation démocratique d'un peuple sous occupation. Mais le résultat n'a pas été reconnu. L'Europe et les États-Unis ont rejeté ce choix, imposé des sanctions, suspendu les salaires des centaines de milliers de fonctionnaires palestiniens. Un peuple entier a été puni pour avoir voté. Le message était brutalement clair. Vous pouvez voter, mais seulement pour le candidat que nous aurons validé. L'expérience démocratique s'est transformée en piège. La division palestinienne a pris une dimension nouvelle, alimentée par une ingérence étrangère qui refusait aux Palestiniens le droit d'écrire seuls leur avenir. Tout cela relève moins du hasard que d'un projet méthodique. La main qui a tracé les cartes et créé le désastre restait la même, celle des puissances européennes qui, après avoir persécuté les Juifs sur leur sol, ont choisi d'expier leurs fautes en exportant leurs questions juives sur la terre des Palestiniens. Ce sont elles qui ont porté le sionisme, qui l'ont financé et légitimé. Ce sont encore elles qui, aujourd'hui, arment Israël, couvrent ses crimes et imposent le silence au nom d'un processus de paix qu'elles n'ont jamais eu l'intention de rendre réel. Effacer cette main est devenu un art. On raconte l'histoire comme si un peuple avait scellé son sort seul, sans bourreau ni colonisateur. Mais la vérité est tout autre. L'Europe a bâti Israël comme une colonie de peuplement en détruisant plus de 400 villages et en reconstruisant un récit sur leurs ruines, transformant les survivants en intrus et les expulsés en coupables. Et lorsque les Palestiniens ont voulu écrire leur histoire par les urnes, en 2006, leur choix démocratique fut puni comme un crime collectif. Ce qui se joue dépasse la terre, c'est la mémoire qu'on tente d'effacer. On voudrait que les Palestiniens croient qu'ils ont provoqué leur propre disparition, qu'ils sont responsables de la Nakba comme de la ruine de Gaza. Mais la mémoire résiste. Elias Rory l'a souvent dit, la mémoire est une blessure qui ne cicatrise pas. Elle revient avec les maisons en ruine, les oliviers déracinés, les exils qui se répètent. Elle dit qu'aucun peuple ne choisit sa disparition. Elle rappelle que ce ne sont ni Husseini, ni le Hamas qui ont détruit la Palestine, mais la main qui, depuis un siècle, trace les cartes, arme les bourreaux et falsifie les récits. On nous a volé notre terre, on nous a volé nos morts, et aujourd'hui encore, on tente de nous voler notre mémoire. La tâche des Palestiniens est de résister à ce vol par la critique, la mémoire et la vérité. Interroger nos divisions, oui, mais sans oublier qu'elles ont été nourries et exploitées par ceux qui nous assiègent. Il est facile depuis Paris d'accuser les Palestiniens. Plus difficile d'admettre que l'Europe a fabriqué ce drame, qu'elle en reste complice et qu'elle préfère accuser les victimes pour effacer son rôle. Le verdict de l'histoire n'est pas celui que Filiu nous dicte, il est limpide. La Palestine n'a pas été détruite par ses enfants, mais par ceux qui, depuis un siècle, s'acharnent à lui voler son ciel, sa terre et sa mémoire. C'est un magnifique texte de Mona Chehabi qui dit tout ce que l'on doit aujourd'hui répéter et répéter. Les responsables et les coupables, ce sont ceux qui arment, ceux qui financent et ceux qui tuent. Et une image qui devrait frapper, si vous la trouverez sur les réseaux sociaux, ce sont ces soldats israéliens qui vont sur le bureau d'une commission ou de députés et qui vident des sacs de médicaments en hurlant qu'ils ne peuvent plus prendre ces médicaments, qu'eux-mêmes prennent des médicaments pour oublier ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vu, et rappellent combien sont nombreux ceux qui se suicident après les horreurs qu'ils ont commises à Gaza. Donc le peuple israélien paiera lui aussi les horreurs qu'il impose au peuple palestinien, et ça va lui coûter très très cher, parce que ce sont les enfants israéliens qui vont payer le prix. Les violences intrafamiliales vont augmenter, sont déjà en train d'augmenter. Les suicides de soldats augmentent. La société israélienne est en crise, mais entre-temps, ce sont les Palestiniens qui meurent. 88.4, on fait une pause. Vous chantez encore
Si on répète la chanson, nouvelle chanson. Y a
Est-ce que tu peux nous remettre la première chanson, qui est leur chanson?
دخل
لك وصل لي السلام بلغ أهلي ولادي مشتاق للرف في الحمام سلمي يا منادي بعد ممنوع الأحلام طلها أيام ببالي والله بتعز الأيام يا رايح صوب اللي طاني دخلك وصل لي السلام طبح أهالي النبطي وطل شوية عالخيام يا رايح صوب اللي طاني دخلك وصل لي السلام طبح أهالي النبطي وطل شوية محمد مشتاق الأهل ورفقاته حي السلمي ما تهنوا اشتاقت عينه لترابك وخلها عيونه نامت لكن صاحي قلبه ما بينام يا رايح يا رايح بلغ أهلي يا رايح يا رايح سلمي يا رايح يا رايح قلها أيام ببالي يا رايح يا رايح يا رايح
Donc c'était cette chanson que vous allez entendre à plusieurs reprises dans les émissions Une heure en Palestine. Mais on va avoir une autre chanson maintenant en direct. C'est l'hymne national palestinien, Biladi ou
Fidaï.
Fidaï.
فدائي 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 يا أرضي يا أرض الجدود فدائي 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 يا شعبي يا شعب الخلود فدائي 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 يا أرضي يا أرض الجدود فدائي 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 يا شعبي يا شعب الخلود بعزمي وناري وبركان ثاري وأشواق دمي لأرضي وداري صعدت الجبال وخضت النضال قهرت المحال حطمت القيود صعدت الجبال وخضت النضال قهرت المحال حطمت القيود فدائي 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 يا أرضي يا أرض الجدود فدائي 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 يا شعبي يا شعب الخلود بعزم الرياح ونار السلاح وإصرار شعبي لخوض الكفاح فلسطين داري ودرب انتصاري فلسطين ثاري وأرض الصمود فلسطين داري وأرض انتصاري فلسطين ثاري وأرض الصمود
Fidaï, c'est résistant, combattant.
Oui, c'est ça.
Et c'est une très belle chanson, comme, qui ressemble un petit peu à un hommage qu'on pourrait rendre aussi à nos résistants. On n'a plus beaucoup de temps, me dit en technique, 3 minutes, c'est ça ? Alors, on aurait voulu vous parler de plein de choses en particulier. Alors, pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire à titre individuel, il y a une chose qui est facile à faire. D'abord, c'est boycotter tous les produits qui viennent de l'État génocidaire. Et regardez les étiquettes dans les magasins. Si vous allez à Noailles, exigez que vos commerçants indiquent l'origine.
Il y a deux mensonges. Le marché où on a trouvé 2 fois, il met l'étiquette, c'est pas vraie étiquette.
Et oui, ils changent les caisses. Donc, soyez extrêmement vigilants sur les marchés parce qu'ils prennent, comme ils savent que le boycott monte et qu'ils veulent quand même vendre les produits, eh bien, ils changent les caisses. Donc, regardez bien. Je crois qu'on fera une émission prochainement, vraiment sur le BDS. Il y a beaucoup de choses à mes côtés, mais en particulier si vous êtes dans des banques comme la BNP, par exemple, la Société Générale aussi, ce sont des banques qui collaborent directement et qui financent à la fois les colonies ou des banques israéliennes qui, elles, financent les colonies. Il y a ça de ce côté. Il y a le magasin Carrefour, par exemple, qui, lui, est complètement dans le boycott. D'ailleurs, il vient de fermer ses magasins au Qatar, parce qu'il y avait un boycott tellement fort que ça ne servait à rien. Il continue sur la France. Eh bien, soyez vigilants, n'allez plus chez Carrefour. Et quand vous allez dans d'autres supermarchés, eh bien, regardez bien les produits que vous achetez. Et en particulier, il y a des boîtes en plastique de l'entreprise Keter qui a été rachetée par l'entreprise israélienne. Regardez bien les origines et boycottez. C'est une manière très non-violente, pacifique, de faire pression sur cet État qui viole en permanence le droit international. Donc, je rappelle très rapidement les événements de la fin de la semaine. Le vendredi 19 septembre, au Gyptis, à 19h, le film « Pour l'honneur de Gaza ». Et aussi le 20 septembre à Martigues, le film est projeté... à Port-de-Bouc, au cinéma Le Méliès. À Marseille, c'est au Gyptis, à la Belle de Mai. Évidemment, le dimanche à 14h à la Porte d'Aix, c'est la manifestation hebdomadaire. Et puis, retrouvez-nous pour suivre la flottille, mais bien plus pour avoir toutes les informations sur la page Facebook du collectif Marseille-Gaza-Palestine, qui vient de dépasser les 12 000 followers. Retrouvez-nous. Et puis, pour le duo Loz, c'est le 20 septembre à Chorges, le 21 dans l'Aude, c'est un peu plus loin, mais Chorges, c'est dans les Alpes d'Aude, non, dans les Hautes-Alpes.
Oui.
Le 7 novembre à Martigues et le 10 octobre à Marseille, au local de Solidaire, mais on reviendra sur tout ça dans les prochaines émissions. Voilà, est-ce qu'il nous reste une seconde ? Non ? Une seconde ? Eh bien, la seconde, elle est pour vous remercier, Bacilla.
Merci à toi.
Et puis, à bientôt.
Merci.
Merci, Sidi, pour la technique.
Merci.
Bintishala.